13h, 14h, vous êtes où cet été ? Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Bonjour et bienvenue dans Vous êtes où cet été ? C'est le meilleur de la semaine passé avec nos baroudeurs d'Europe 1. Des expériences, des rencontres, des paysages, des festivals, les vacances et les festivités vues par le prisme de l'artisanat, de l'innovation. Des petites histoires qui dessinent, vous le savez, la grande histoire. C'est pendant une heure, de 13h à 14h tous les samedis. Aujourd'hui, cap sur la Bretagne, ses plages, sa mer fraîche et ses crêpes, son bignou. Vous êtes où cet été ? C'est avec Jean-Gabriel Bourgeois et c'est parti. Et on commence la semaine par lundi où Jean-Gabriel Bourgeois mettait le cap sur le Morbihan pour aller à la rencontre d'un couple qui a plaqué Paris, plaqué son ancienne vie pour découvrir tout autre chose. Reportage.
On est à quelques mètres de l'océan et je vous emmène dans un camping à la rencontre des gérants. Yann et Audrey vivent en ce moment leur première saison à la tête du camping de la plage. Ils ont tout plaqué en région parisienne où ils ont toujours habité. Monsieur était conducteur de bus scolaire, madame éducatrice sportive. Les bouchons, les horaires décalés, le stress et aussi les attentats de Paris, ils ont dit stop et banco pour la douceur bretonne.
Au début, le camping, c'était pas du tout la première idée. Nous, on voulait changer de vie, on voulait se rapprocher de la mer. Et on avait fait un petit road trip il y a quelques années avec les enfants en camping-car en Tour de Bretagne. On s'est arrêté dans pas mal de campings et on s'est regardé avec mon mari et on a dit pourquoi pas. Pourquoi pas reprendre un camping ? Donc l'idée a germé et du coup, on s'est lancé l'année dernière où on a vendu la maison.
Vendre la maison, se séparer des amis et des parents qui vivent juste à côté, à Arpajon, dans l'Essonne, pour un nouveau départ avec les enfants en Bretagne.
Mais alors comment on passe de chauffeur de bus scolaire ou éducatrice sportive à gérant de camping ? Il y a quand même une sacrée différence, c'est Patrick Chirac quoi. Hein, c'est...
Ah oui, complètement. Ils ont posé leurs valises au mois de septembre dernier pour que leurs deux enfants soient scolarisés. Inscription aussi à l'école de voile évidemment. Et Audrey et Yann ont décidé d'ouvrir le camping pendant l'arrière-saison histoire de se faire un peu la main avec moins de clients l'automne et l'hiver avant le rush de l'été.
Alors c'est sûr qu'il faut être hyper polyvalent. Gérant de camping, il faut savoir faire de la compta, il faut savoir faire de la communication. On passe de la vente de pain à la tuyauterie pour réparer une canalisation, à de l'électricité, à du jardinage. Bah, y a toujours quelque chose qui se rajoute. Avant-hier, par exemple, c'est un frigo qui est tombé en panne dans un mobilhome avec des clients dedans. Bah, il a fallu aller à Vannes chercher un frigo tout neuf. C'est des petites choses comme ça qui ne sont pas prévues et puis bah, ça chamboule un peu la journée, mais après, on s'en sort.
On s'en sort. Alors comment ça se passe l'intégration, le contact avec les vacanciers, puis les habitués surtout du camping hein ?
Eh bien l'intégration, ça passe par des détails. Par exemple, on change la plaque d'immatriculation de la voiture pour mettre le numéro 56, le département du Morbihan. On est tout de suite mieux accepté.
Ah, ils avaient laissé le 75 ?
Non, c'était le 91,
ouais,
pour être exact.
Oui. Bon,
voilà. Ces axes parisiens, ces axes franciliens ont installé aussi des drapeaux bretons un peu partout. Ça donne le ton, évidemment, auprès de ceux qui reviennent tous les ans au camping.
Ça fait 40 ans qu'on fait du camping, on change pas les habitudes.
Hein. Et alors, les nouveaux propriétaires ?
On va faire d'autres connaissances au fur et à mesure du temps.
Qu'est-ce que ça change pour vous ?
Oh, un certain dynamisme, je pense, qui va repartir dans le camping.
Quoi qu'ils viennent de la région parisienne, ça, on s'en fiche, mais c'est vrai qu'on voulait quelqu'un qui s'occupe bien du camping, et là, c'est le cas.
Bon, alors on comprend qu'ils ont été assez bien accueillis, malgré la plaque 91. Ils regrettent pas du tout leur changement de vie ?
Bah, c'est vrai que ça a été un peu dur de partir de la région parisienne, notamment pour Audrey, très attachée à sa famille dans l'Essonne. Mais au final, aujourd'hui, ils sont assez fiers d'avoir sauté le pas.
Aucun regret sur notre vie d'avant.
Aujourd'hui, absolument pas. Un peu plus pour les enfants. Pendant tout le mois de septembre, octobre, novembre, à chaque fois, c'était « oui, mais j'ai perdu mes copains ». Et puis, voilà, au bout d'un moment, c'est quand même mieux ici.
On travaille au grand air et même si on travaille, on a quand même l'impression d'être un petit peu en vacances tous les jours.
Il y a beaucoup de gens qui veulent faire aussi comme vous, qui veulent changer de vie.
On a retrouvé, bizarrement, des gens qui habitaient aussi en région parisienne et on les a recroisés sur Damgan. Bah, je viens d'acheter un terrain sur Damgan. J'ai fait « mais personne ne connaissait Damgan » et finalement, tout le monde vient s'installer dans ce petit coin de paradis, donc c'est chouette et c'est plutôt rigolo.
Voilà, leur choix de changer de vie fait donc des émules. Eux, ils se sont lancés avec ce défi à relever, mais ils sont de nature optimiste et comme vous l'avez compris, ils n'ont aucun regret.
Alors Jean-Gabriel Bourgeois, quand vous avez rencontré Audrey et Yann, ça n'a pas été très simple pour eux d'abord de partir, de larguer les amarres.
Eh ben oui, ça faisait 2-3 ans que ça leur passait par la tête en fait. Ils voulaient vraiment changer de vie, donc ils ont cherché du travail en province. Mais d'abord, ça n'a rien donné. Ils ont pensé à racheter une franchise de Superette, par exemple, jusqu'à ce que Yann lance à Audrey et si on devenait propriétaire de camping à la mer. Et là, Audrey a dit OK, et voilà. Ils ont même vendu leur maison avant de
Ah
savoir où
oui.
ils allaient s'installer. Ouais, donc c'était vraiment parti à
C'est un
l'aventure,
challenge,
quoi.
ouais.
Exactement. Ça, c'était l'année dernière. Et puis, ils ont trouvé le camping de la plage, donc à Damgans, en Bretagne. C'est en fait les anciens gérants qui partaient à la retraite.
Alors, en même temps, quitter l'effervescence, ou même on peut dire le stress, les embouteillages de la région parisienne, pour le calme de la Bretagne, ça, c'est dépaysant, hein.
Ah oui, un petit choc culturel, hein, notamment pour les deux enfants, comme l'expliquait Yann dans le sujet. Ils ont quitté leurs copains, ils ont quitté leurs cousins qui habitaient juste à côté de chez eux. Hein, on est à Arpajon, dans l'Essonne. Les parents donc appréhendaient et ils ont finalement trouvé une petite école avec peu d'élèves, donc plutôt sympathique comme cadre d'éducation. Et puis prendre le goûter sur la plage, faut dire que c'est quand même plaisant. Hein.
Eh bien merci Jean-Gabriel Bourgeois pour cette rencontre avec Yann et Audrey qui ont tout plaqué, qui sont partis en Bretagne. On continue votre petit périple en Bretagne juste après ça. Vous êtes où cet été? Ça continue avec Jean-Gabriel Bourgeois qui nous emmène dans des lieux inédits en Bretagne. Aujourd'hui, un monde imaginaire plein de secrets et de légendes.
On est parti pour plus de 3 heures de promenade entre les étangs et les collines. Un groupe d'une trentaine de personnes et Katia Bessette, notre conteuse, nous donne la règle. Pour passer dans ce monde imaginaire, elle s'appuie sur Antoine de Saint-Exupéry.
Et maintenant, on peut quitter le monde des hommes et pénétrer en Brocéliande. Tout le monde se rappelle de ce que le renard dit au petit prince. Il lui explique que les vraies choses, les choses importantes, ne se voient qu'avec le cœur. Si on ouvre grand les yeux du cœur, alors nous aurons accès au monde invisible. Et c'est bien là la quête que nous venons vivre à Brocéliande, accéder au monde invisible.
Les enfants espèrent apercevoir Merlin l'enchanteur au détour d'un arbre ou la fée Viviane près d'un ruisseau. Et c'est au bord d'un étang que Katia nous raconte le terrifiant Lankou, le serviteur de la mort, ou des légendes magiques comme cette histoire d'un amour interdit entre une fée et un chevalier.
Et quand la fée a plongé ses yeux au plus profond de son regard, elle a su ce jour-là qu'elle quitterait sans regret sa famille et ses sœurs, qu'elle quitterait sans regret son peuple pour le suivre dans le monde des hommes. C'était une lourde décision, car une fée qui va vivre parmi les hommes devient mortelle. Elle devient une humaine, mais peu importe, elle l'aimait et c'est tout ce qui comptait. Merci.
Et ces légendes, Jean-Gabriel, j'imagine qu'elles datent de très 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 longtemps.
Ah bah oui, ces contes, ils ont été écrits au Moyen-Âge, au XIIe siècle, mais en fait, toutes ces légendes, elles ont été transmises oralement depuis bien plus longtemps, et c'est justement ce qui fait l'intérêt pour la conteuse, transmettre oralement ce folklore breton, les histoires du roi Arthur, des chevaliers de la Table Ronde, tout en crapahutant dans les collines, on navigue entre les contes arthuriens, les contes populaires, le golfe du Morbihan se serait ainsi formé grâce aux larmes des korrigans, des petits lutins espiègles, petits et grands sont conquis, ou presque.
Vous êtes là justement pour vous perfectionner un peu, c'est ça?
Non, c'est parce qu'on m'a obligé.
Cette promenade, ça vous plaît pas?
Ah si, c'est très bien.
On nous explique tout ce que cette forêt peut faire comme chose magique. Ça me fait penser surtout qu'on est dans un conte.
Moi, ça m'a fait revivre l'histoire de ma Bretagne, l'histoire aussi de ma jeunesse, parce que c'est des histoires si on veut, mais enfin, que ce soit Lancelot ou Viviane ou Morgane, hein, c'est l'histoire de jalousie, d'amour, et c'est l'histoire des hommes, hein.
Sympa le premier papa, Jean-Gabriel. L'histoire des hommes, alors, puisqu'on en parle, on la retrouve dans la légende de la fée Morgane, justement.
Oui, on est dans le Val sans retour.
Sans retour parce que Morgane enfermait là tous les amants qu'elle jugeait infidèles à leur dame. C'est ce que je vais raconter là, dans quelques mètres, dans quelques instants.
On s'assoit autour d'un gros rocher et tout le monde se tait pour écouter Katia parler de Morgane, la sœur magicienne du roi Arthur et de son promis Guyomar, qui l'a trahi avec une autre femme.
Il était amoureux d'une jeune femme insignifiante, une moins que rien, une servante, une blonde. Morgane en a eu assez ce jour-là. Trop d'hommes l'avaient trahi, trop d'hommes l'avaient abandonné. Alors, une nuit, alors que Guyomar et sa maîtresse étaient là, réunis en haut de cette vallée, Morgane est apparue soudain devant eux. Avant qu'il n'ait eu le temps de parler, de s'expliquer, elle a agité ses mains dans les airs, elle a créé des volutes et les a transformés tous les deux. Un puissant sortilège les a contenus dans cette pierre. On dit que désormais, les deux amants reposent là, transformés en pierre pour l'éternité, en haut de ce val sans retour.
Voilà, et d'ailleurs, cette légende où une femme prend le pouvoir sur les hommes, elle est considérée comme l'une des premières histoires féministes de la littérature française.
Alors, cette escapade en forêt de Brocéliande, hein, Jean-Gabriel, c'est l'occasion de parler aussi du druidisme. Mais oui, ça existe, c'est une discipline, les druides, oui. Comme Panoramix.
Voilà, on est en pays de tradition celtique, hein. C'est le lieu de vie des druides il y a plusieurs siècles, et il y en a encore aujourd'hui, figurez-vous. J'en ai d'ailleurs rencontré un, si, il s'appelle Jean-Claude Capelli, il est entré en druidisme dans les années 90 après une vie active d'enseignant. Ils sont assez peu nombreux en France, peut-être 200 selon lui. Alors ils se réunissent régulièrement, il y a des assemblées de druides comme ça, à des moments clés de l'année, les changements de saison, on pense à la Toussaint, ça s'appelle la Samhain, voilà. J'ai demandé à Jean-Claude Capelli ce que c'était qu'être druide aujourd'hui.
Être druide, c'est avant tout être un philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui va se poser les questions existentielles qu'on se pose en général. C'est quelqu'un qui va essayer de comprendre ce que c'est ce monde et de comprendre ce que nous y faisons, tout simplement.
Donc c'est loin de l'image qu'on peut avoir du druide, la longue barbe blanche, le vieux sénile au fin fond de la forêt avec sa marmite en train de préparer ses potions, c'est pas du tout ça.
Alors je vois bien ce à quoi vous faites allusion, à la fameuse bande dessinée, et j'ai toujours l'habitude de dire le druide, ça n'est pas un vieillard sénile qui passe son temps à concocter des potions magiques pour des guerriers braillards et débiles, c'est très réducteur, non, c'est pas du tout ça.
Qu'est-ce que c'est vos missions en tant que druide, du coup?
Alors, moi, aujourd'hui, ce que j'ai choisi comme mission, c'est justement de faire connaître la tradition druidique, aussi bien la tradition druidique antique que la tradition druidique d'aujourd'hui. Ce qui fait que moi, je passe mes journées aujourd'hui à étudier à travers les textes mythologiques irlandais, à travers les textes gallois, à travers même les traditions populaires, et puis surtout à travers les travaux de nos historiens et de nos archéologues d'aujourd'hui, ce qu'était la tradition druidique antique, pour tenter de recycler cette pensée pour pouvoir l'adapter au troisième millénaire.
Il y a aussi des charlatans, des gens qui se réclament druides, qui n'ont rien à voir avec le mouvement du druidisme.
Effectivement, il y a des druides de génération spontanée, quoi. C'est-à-dire des gens dont on ne sait pas trop d'où ils sortent, qui vont confondre par exemple le chamanisme avec le druidisme.
Et là, est-ce que vous avez des nouvelles de Panoramix ?
Il va très bien, il va très bien. Il faut rendre hommage quand même à Uderzo et Goscinny, parce que je pense qu'ils ont concocté le nom de leur druide en faisant l'amalgame entre deux mots, panorama et rix. En fait, Panoramix, c'est le roi du panorama. Et qu'est-ce que c'est qu'un panorama ? C'est un lieu élevé où on a une vision panoramique du monde. Donc. Et les druides antiques, il y a 25 siècles de ça, étaient exactement ça. Des gens qui avaient une connaissance totale de leur temps. Mais ce que ne peut plus être un druide aujourd'hui. Un druide aujourd'hui ne peut plus être le roi du panorama. Ce qui fait qu'un druide aujourd'hui va être avant tout un philosophe qui va prendre certaines directions de recherche dans son travail philosophique.
Jean-Claude Capelli, druide des temps modernes que vous avez rencontré, Jean-Gabriel Bourgeois, en Bretagne. C'est fascinant, hein, déjà, franchement, d'apprendre qu'il y a des druides de nos jours.
Ouais, n'est-ce pas ?
C'est hallucinant. Et alors, quand il dit que le druidisme et le chamanisme, c'est pas la même chose, là, on voltige quand même dans des sphères très, très élevées, hein, j'ai l'impression.
Ah oui, c'est très différent. Il m'a dit qu'il connaissait des chamans, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'il faisait lui. Donc cette recherche philosophique et ses recherches à travers les archives, à travers toutes les légendes aussi, et le mode de vie des druides.
Il a donc pas du tout une longue barbe blanche. Hein,
c'est... Alors s'il a une petite barbe, pas longue, mais oui,
mais la barbe
est
à la mode, donc...
Voilà, tout à fait.
Bon, bah, écoutez, on continue d'ailleurs de parler de cet imaginaire, et notamment de l'imaginaire arthurien avec notre invité, c'est juste après ça. Et après cette promenade en forêt de Brocéliande avec Jean-Gabriel Bourgeois au cœur de la Bretagne, nous sommes en ligne avec Bruno Sotti, bonjour.
Bonjour.
Du centre de l'imaginaire arthurien au château de Quimper, resituez-nous Quimper.
Alors Quimper, c'est le château historique de la forêt de Brocéliande qui se situe au nord de la forêt, qui héberge aujourd'hui un musée scénographié sur la légende arthurienne.
Alors justement, on a vu à travers ce reportage combien ces légendes bretonnes, aujourd'hui en 2019, sont encore très 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 présentes, même si elles sont ancestrales.
Oui, absolument. Il est vrai qu'aujourd'hui, en Bretagne, parfois plus qu'ailleurs, le côté imaginaire, légendaire est encore ancré est encore mis en avant, notamment parce que ça fait partie de toute une identité bretonne derrière. Et ces légendes, et notamment les légendes arthuriennes, elles ont été amenées ici par plusieurs vagues de relégendarisation du territoire, et notamment beaucoup au XIXe siècle, lorsque les romantiques avaient une vision arthurienne de la Bretagne, ils ont ramené beaucoup de ce patrimoine ici.
Donc on se sert de ce patrimoine existant pour, j'allais dire, faire monter la mayonnaise, quoi. On est là aussi pour surfer un peu sur la vague.
On est surtout là pour comprendre l'ampleur des messages que ce patrimoine transmet et se servir de cette matière qui vient du fond des âges pour continuer à transmettre des valeurs dont on a aussi besoin aujourd'hui. Les gens sont en recherche d'évasion, d'imaginaire, mais à travers cette évasion et cet imaginaire, ils cherchent des vérités et parfois ils cherchent un petit peu autre chose que ce que la société moderne propose.
Vous voulez dire que c'est un peu de philosophie, on essaye de se mettre en paix avec soi-même, tout ce genre de choses ?
Absolument, pour rebondir sur ce que disait Jean-Claude Capelli, le conteur aussi est un philosophe, puisque lorsqu'il compte, on dit toujours qu'il ment pour dire la vérité. Compter, c'est mentir pour dire la vérité, c'est à travers des histoires, donner à la fin une morale, donner à la fois quelque chose à réfléchir, et je pense que les gens viennent chercher ce genre d'expérience ici.
Ouais, et il ne faut pas confondre dans ces cas-là, à tout point de vue, mythe et mythomanie, parce que là, on peut vraiment se mentir à soi-même, et là, ça commence à devenir dangereux.
Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est toujours important de garder les frontières. C'est ce qu'on fait, nous, à Brocéliande, c'est garder la frontière entre le monde des hommes et l'autre monde.
Alors, oui, on n'est pas là pour marabouter les gens. Hein. C'est ça que je veux dire. Hein. On n'est pas là pour... voilà. Ce que je voulais dire, c'est ces légendes, au niveau brut, quand on va les rechercher, elles sont écrites en quelle langue ?
Alors, ces légendes, elles sont écrites d'abord en latin. Hein. Ce sont des textes qui sont posés sur le papier en latin, mais qui viennent d'une tradition plus ancienne, orale, qui, elle, est celtique. Et c'est ça qui est compliqué à démêler. C'est pour ça que la légende arthurienne, c'est quelque chose de très vaste. On ne peut pas en faire le tour en quelques minutes. Mais d'abord, on est sur une littérature qui vient du début du Moyen-Âge et donc qui forcément est posée en latin, puis après en vieux français et puis aujourd'hui en français moderne.
Oui, et pas forcément ce que vous disiez, c'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'écrit qui suit, ce sont des histoires que les gens se racontent au fil des générations. C'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme et du coup, on peut changer certains détails, j'imagine.
Absolument, le fond de l'histoire, certains symboles restent les mêmes quasiment depuis le début que l'on a commencé à se les passer, mais c'est un petit peu le même principe que le jeu auquel nous avons peut-être tous joué en colonie de vacances qui s'appelle le téléphone arabe, ouais. Quand on discute à l'oreille de son petit camarade et que la phrase se passe d'une oreille à l'autre et lorsque le dernier la répète, eh bien ça n'a plus rien à voir avec le début. C'est exactement le même principe, mais ce n'est pas grave, la légende doit continuer d'évoluer, elle évolue encore aujourd'hui grâce à les nouveaux moyens de communication qu'on peut avoir. Aujourd'hui, il y a des jeux vidéo autour de la légende arthurienne, des séries. Ça n'a plus rien à voir parfois avec la matière médiévale, ouais. Mais peu importe, ce sont les thèmes qui sont abordés qui sont importants. La matière doit continuer de vivre.
Ce qui reste en revanche, ce sont les personnages mythiques des légendes et bien sûr en commençant par Arthur lui-même.
Oui, c'est vrai qu'il y a certains personnages qui sont sortis du lot, qui sont devenus des avatars, des archétypes. Arthur pour le roi, le guerrier, Morgane pour la fée, l'enchanteresse, Merlin pour l'enchanteur, le vieux sage. Et ces archétypes-là, ils ont envahi toute notre littérature et toute notre pop culture moderne. Si on prend un personnage comme Merlin, on retrouve des traits de Merlin dans d'autres personnages plus contemporains comme Dumbledore, comme Gandalf ou comme Obi-Wan Kenobi. C'est le personnage du vieux maître. Si on prend Arthur, quand Arthur est jeune, il doit accéder au trône en retirant une épée d'une pierre. Il doit accomplir un rite initiatique et on peut retrouver là Harry Potter qui retrouve l'épée de Godric Gryffondor ou encore le Seigneur des Anneaux avec la petite épée qu'il a à la ceinture pour partir jeter l'anneau dans le volcan. Bref, c'est des symboles qui sont éternels et qui continuent d'alimenter la pop culture moderne, y compris à travers les personnages.
Extraordinaire. Et pour mieux comprendre et visiter tout cela, rendez-vous au centre de l'imaginaire arthurien au château de Compère dans la forêt de Brocéliande. Merci beaucoup Bruno Sotti du centre de l'imaginaire arthurien au château de Compère où on peut effectivement se rendre pour voir tout ça, pour le vivre en vrai, en réel, comme l'a fait Jean-Gabriel Bourgeois. On va se retrouver avec Jean-Gabriel dans quelques petits instants, mais d'abord, un peu de musique bretonne avec Nolwenn.
Vous venez d'un voyage gay, vous venez d'un voyage gay, vous venez d'un voyage gay.
C'était Nolwenn Leroy. Et on continue bien sûr notre balade en Bretagne avec Jean-Gabriel Bourgeois qui, dans quelques instants, nous emmène du côté de Quiberon. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans Vous êtes tous, cet été, l'émission qui fait le résumé de nos baroudeurs qui, justement, sillonnent la France, les paysages. Cette semaine, on s'est installé en Bretagne avec Jean-Gabriel Bourgeois. Et aujourd'hui, nous allons du côté de Quiberon assister à ce qu'on appelle un fest-noz.
On est à Quiberon, tout au bout de la presqu'île, à 50 mètres de la plage. C'est là que j'ai assisté à un fest-noz, effectivement, une fête traditionnelle. Et pour tout savoir sur cette fête, j'ai demandé à Viviane Carne, bretonne jusque dans ses baskets aux couleurs du drapeau breton. Vous savez, les bandes blanches et noires avec les mouchetures d'hermine. Viviane s'occupe d'un groupe qui s'appelle Bugalé Armor, ça veut dire les enfants de la mer en breton.
Le principe d'un fest-noz, c'est de danser très tard dans la nuit, pendant très très longtemps, sans s'arrêter. Danse bretonne, à l'origine, ce sont des danses de travail. Il fallait battre la terre, piétiner la terre. On coupait le foin, il fallait piétiner le foin. C'était une façon de travailler aussi, danser et travailler. C'est rythmé, c'est par deux, c'est en rond, c'est par quatre. Il y a plusieurs façons de danser danse bretonne.
Et donc avec le petit doigt qui se tient, c'est ça que...
Ah oui, oui, oui. Et il ne faut surtout pas le serrer, parce qu'autrement, à la fin de la danse, vous entendez dire « Oh là là, j'ai mal au petit doigt ». C'est parce que vous avez trop serré le petit doigt.
Ne pas serrer le petit doigt, c'est la règle. Et on la met tout de suite en pratique avec l'initiation. Le groupe de danse propose juste avant le fest-noz. Erwan prend son accordéon sous le regard des goélands posés sur les toits tout autour et des premiers spectateurs entraînés dans la ronde.
On va démarrer sur le pied gauche, on va faire 1, 2, 3. Et sur le pied droit sur place, on fait 1, 2, 3.
Très mauvaise
en
coordination.
Seulement il y a les bras. Il n'y a rien de plus facile que ça. Allez, vas-y.
Comment ça se passe, madame?
C'est un peu compliqué dès le début.
Vous comptez les pas, là?
Oui, je compte, mais là, je suis perdue. Vous me perturbez, là.
Ah bah oui, mais c'est votre faute aussi, Jean-Gabriel. Vous la perturbez. C'est après l'initiation à la danse, il se passe quoi?
Eh ben, c'est le début de la fête, Pierre. Ah. Ah là, on entend la musique des Senoriendu, un groupe mythique en Bretagne, une formation créée en 1972. Et alors là, ça rigole plus du tout, ça devient physique. On sautille, on piétine, on enchaîne les danses typiques. Ah non, il n'y a plus de petits doigts, là. Effectivement. Donc ces danses, c'est les Casterois, Tanterdro, Andro, Gavotte, Ronde Saint-Vincent, au son du biniou, de la mandoline, de la bombarde et même de la guitare électrique. Il faut dire que les Bretons sont très attachés au fest-noz. La place du centre-ville s'est d'ailleurs rempli. Jean-Claude vient de Pontivy.
C'est quoi l'ambiance d'un fest-noz? C'est la convivialité, c'est la danse. Comme on danse, on a chaud. Après, on boit un coup. Voilà. Et puis, on passe du bon temps. On voit du monde, on discute avec des gens. Il y a toujours du monde qui vient au fest-noz. Et la musique celtique reste toujours là. Et c'est ce qui est important pour notre belle Bretagne.
Voilà. Et tout le monde s'y retrouve parmi les danseurs.
C'est ça qui est sympa, c'est qu'il y a aussi bien les vieux que les jeunes, les petits, les moins jeunes.
Monsieur aussi, vous dansez?
Bah oui, autant d'hommes que de femmes, hein. C'est la tradition bretonne. Et puis c'est les danses qui datent d'une époque où justement on dansait aussi bien tous en groupe qu'en couple.
Je vous ai vu danser toute la soirée, madame.
Oui, oui, bah oui, ça conserve.
Et c'est quand même sportif aussi parce que ça bouge tout
le
temps.
C'est très sportif et très douloureux quand on a de l'arthrose aux genoux.
Ouais, c'est
ça
sûr.
Conserve.
Et voilà, c'est mieux d'avoir la santé pour danser lors de ces fêtes de nuit, dont le succès ne se dément pas au point que le fest-noz est inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité depuis 2012.
Jean-Gabriel, alors, on vous a suivi dans cette fête plutôt joyeuse, on va dire, les fest-noz. Oui. Alors, il n'y en a pas qu'en Bretagne, hein?
Oui, oui, alors il y en a quand même beaucoup en Bretagne, surtout l'été, et pas que dans des endroits touristiques. Je pense par exemple au fest-noz de Guerlesquin dans le Finistère. Ambiance typique, on danse sous les halles. On retrouve les origines rurales du fest-noz. Cette année, ça se passe le 8 août. Et puis, il y a beaucoup de Bretons expatriés, vous savez, notamment à Paris. Donc, il y a des fest-noz. Le fest-noz, c'est le pluriel de fest-noz.
Il parle le breton, Jean-Gabriel. Ça y est, c'est fini.
On l'a perdu. Donc, un fest-noz, des fest-noz. Tounos, un peu partout. À Quiberon, d'ailleurs, j'ai croisé des vacanciers qui venaient du Berry et qui faisaient partie d'un groupe de danse à Bourges. Ils venaient spécialement pour ce fest-noz à Quiberon. Et puis, donc, il y en a aussi à Paris, en région parisienne. Et ça, il y en a toute l'année. Hein.
Mais je comprends que vous avez pris votre abonnement, alors, du coup, pour une petite salle parisienne de fest-noz. Et d'ailleurs, Jean-Gab, il faut savoir, on a envie de savoir si vous avez dansé.
Alors, je vais vous décevoir quand même, Pierre, parce qu'en fait, non. En fait,
Pas vraiment.
Pas vraiment. Non, je n'ai pas tenu le petit doigt comme il faut faire. J'ai pas enroulé, j'ai pas déroulé. Je me suis mis un peu sur le côté et en fait, j'observais plutôt. Voilà. J'essayais de suivre le rythme, les différents pas que j'arrivais quand même un peu à reproduire, mais je faisais plutôt du sur place. Mais je m'entraîne pour une prochaine fois. Voilà.
Vous avez fait votre travail de reporter et c'est bien normal. Merci beaucoup, Jean-Gabriel. On se retrouve dans quelques petits instants pour une nouvelle étape qui nous emmène à l'île de Watt. Et on continue notre petit périple en Bretagne avec Jean-Gabriel Bourgeois qui aujourd'hui nous emmène sur l'île de Watt.
40 minutes de bateau au départ de Quiberon. On longe les côtes de Belle-Île en mer et on débarque au petit port Saint-Gildas. Premier stop ici, c'est le retour de pêche. Et là, on rencontre Emmanuel. Comme tous les jours, depuis 34 ans, il rentre au port avec poissons et crustacés.
Qu'est-ce que vous avez pêché ?
Du rouget, du maquereau et hier du homard et du crabe.
C'est comme ça un peu tous les jours ?
Oui, se lever le matin et puis aller pêcher et puis voilà.
Ça paraît bien simple, hein, mais pour
c'est
les
comme
touristes,
nous, on se lève aussi. Hein.
Exactement, et pour les touristes, c'est une vraie attraction. Devant les casiers, ils pensent déjà au repas du midi. Jacinthe et Lionel passent leurs vacances depuis plusieurs années sur l'île.
C'est direct de la pêche, là, donc ça vaut carrément le coup. Hein. Les poissons qu'on trouve sur le continent, mais ils sont beaucoup plus gros, en fait. Ça part dans les grands restaurants, des poissons de cette qualité-là, d'habitude. Et ils sont pour nous.
Faites-nous un peu saliver, là. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le déjeuner ?
Bah, de la dorade.
Oui, voilà.
Une dorade.
Les tourteaux ce soir et la dorade voilà, ce midi.
Ça donne envie, mais peut-être pas le matin quand même, hein, les tourteaux mayonnaise sur la tartine de beurre. La pêche, on imagine que ça rythme la vie de l'île. Hein.
Oui, tout à fait. La pêche, c'est la principale activité ici. Il y a aussi un médecin, une école, un collège, une médiathèque vient même d'ouvrir pour les 250 habitants qui vivent à l'année sur la discrète Watt. Il faut savoir que c'est sans doute l'une des dernières communes de France à avoir été raccordée à l'électricité et à l'eau courante. C'était dans les années 70, il y a à peine 50 ans, et beaucoup d'anciens se souviennent du temps des veillées devant la lampe à pétrole. Mais aujourd'hui, ça a bien changé. L'été, la population décuple avec des demandes parfois surprenantes. Madame le maire, André Vielvoix.
Ceux qui viennent nous visiter ont parfois tendance à croire qu'on est vraiment dans un pays reculé. Enfin, ils nous demandent s'il y a une épicerie, ils nous demandent s'il y a des chemins. Enfin, on a des questions un petit peu bizarres. Est-ce qu'il y a des plages ? Oui, dans une île, il y a des plages. La plus grande, c'est la Grand Plage. C'est une plage convexe, donc c'est une rareté géologique. Et elle est superbe. Et par certains jours, on a jusqu'à 300, 400 bateaux qui stationnent devant la plage.
Et on m'a dit qu'il y avait la plus belle plage du Morbihan.
C'est celle-là.
C'est celle-là.
Ah oui, il faut que vous alliez la voir.
La plage, évidemment. On imagine que vous n'avez pas eu de mal à la trouver.
Et oui, en effet, il faut d'abord sortir du petit bourg avec ses maisons aux façades blanches et aux toits d'ardoise. Ensuite, on emprunte l'un des sentiers de sable qui serpentent dans la lande. Cette lande recouvre toute l'île de Watt. Ça donne un côté sauvage, très préservé. Il n'y a pas de voiture, quelques menhirs pour se rappeler qu'on est en Bretagne. Et tout de suite, la brise de l'océan quand on découvre cette grande plage.
Elle est magnifique. Tout simplement.
Elle est bonne l'eau là ?
Elle est délicieuse.
Faut quand même y aller non ? Parce que...
Ça fait du bien. Ouais. Regardez ça. Il n'y a pas de mots. Par contre, faut pas le dire.
On garde pour nous. Plus belle plage de Watt, voire de Bretagne. Un peu fraîche. Ça fait un bien fou, ça réveille.
Ah oui, ça c'est sûr.
Vous y êtes pas allé ?
Pas encore, non.
Eh ben, on peut régler ça.
Ils vont vous mettre à l'eau.
Eh ben, on investigue, hein, on vérifie l'information. Et du coup, je peux vous dire qu'à 21 degrés dans l'océan, on entre bien moins facilement que dans la Méditerranée.
Oui, on vous sentait un peu frisqué là. Hein, mon petit Jean-Gabriel.
Vous avez du bien, effectivement.
Et nous sommes en ligne avec André Vielvoix. Bonjour.
Oui, bonjour.
Maire de Watt depuis 2014, cette île, même si vous avez commencé à y aller dans les années 70, vous êtes vraiment complètement imprégné de cette atmosphère.
Bien obligé. Quand on gère une île, même quand on n'est pas originaire de cette île, il faut prendre à son compte toute la beauté de l'île, mais aussi toutes les conditions que nous devons y mettre pour que les gens puissent y vivre bien et y vivre bien toute l'année.
Qu'est-ce qui fait qu'une résidente secondaire de Watt depuis 1976, il y a 5 ans, un jour, décide de devenir maire ?
Je ne l'ai pas honnêtement vraiment décidé. Je me suis retrouvée sur une liste qui avait vu sa tête de liste non élue et qui était majoritaire. Et donc, on s'est réunis entre élus et on s'est dit, mais qui va être maire? Et ils m'ont proposé de prendre la tête de la commune. J'ai fait une consultation familiale parce que c'est quand même une vie dédiée à Lille pendant 6 ans. Mais je ne ferai que 6 ans et je l'ai dit dès le premier jour.
Et vous passerez le flambeau à quelqu'un comme vous? Parce qu'il y a 2/3 quand même de résidents secondaires.
Il y a 2/3 de résidents secondaires. Pour l'instant, les listes ne sont pas connues. Il y a quelques personnes qui envisagent de se présenter. Mais pour l'instant, ça reste relativement flou. Et les choses vont se décanter, à mon avis, après l'été.
Qu'est-ce qui se passe justement après l'été? Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a qu'un tiers des habitants? C'est que c'est une île qui n'est plus du tout la même à partir du 1er septembre?
À partir du 1er septembre, il fait encore très beau, puisque les automnes sont magnifiques chez nous. Mais c'est vrai que nous retrouvons le calme. Nous avons encore quelques événements pendant le mois de septembre. Le vrai calme, nous le retrouvons après la Toussaint, quand les résidents secondaires nous quittent pour rejoindre d'autres cieux ou leur ville d'origine. Et là, nous nous retrouvons vraiment entre nous et ça crée tout à fait une autre ambiance.
Mais quel genre d'ambiance?
C'est une ambiance, cette fois-ci, très insulaire. C'est-à-dire que nous savons que nous sommes peu nombreux. Nous avons peu de bateaux qui nous relient au continent. La plupart de nos hôtels, restaurants ferment. Mm-hmm. Nous n'avons plus de pain. Il faut que le pain vienne du continent tous les jours, quand le bateau passe.
Ouais. Le seul bateau,
parce qu'il y a...
Il n'y a qu'un seul aller-retour, c'est ça? Un bateau,
oui,
non,
un matin, le soir. Il y a un aller-retour le matin et un aller-retour le soir. Mais pour nous fournir ou pour les entreprises qui viennent travailler chez nous, parce qu'on en a besoin, il y a pas mal de chantiers tout au long de l'année, c'est vrai que les conditions sont relativement rudes, d'autant plus qu'il peut y avoir des coups de vent, évidemment, pendant l'hiver.
Et justement, quand il y a un coup de vent, est-ce qu'il arrive que le bateau n'arrive plus?
Bien sûr. Bien sûr, il nous arrive de rester coupé du continent.
Combien de temps maximum?
Deux, trois jours, parce que les tempêtes passent. Hein, donc, dès que c'est possible, les bateaux reprennent les liaisons.
Vous voulez dire que chacun a des boîtes de conserve dans une armoire quelque part rangée?
Oui, on a intérêt. On a intérêt, et puis on a intérêt à mettre un peu de pain au congélateur pour pouvoir faire face aux ruptures.
C'est quoi le turnover des commerces? Est-ce qu'il y a des gens qui s'installent justement sur Watt, de toutes sortes d'ailleurs, que ce soit le textile ou que ce soit des magasins de souvenirs ou justement des commerces de proximité? Comment ça se passe?
Nous échappons aux magasins de souvenirs, hein, ce qui est pas mal.
Les boules à neige avec l'île de Watt, non, c'est non.
Sont les magasins qui sont là, qui sont ouverts toute l'année. Les deux épiceries sont ouvertes toute l'année et je les en remercie parce que l'hiver, vraiment, leur chiffre d'affaires est très faible.
C'est un sacerdoce.
C'est plutôt ce qui nous manque l'hiver parfois, c'est que nous n'avons pas de café. Les cafés sont fermés et pendant janvier, février, jusqu'à quasiment la fin mars. Si on veut trouver un café chaud quand on vient sur l'île, il faut venir à la mairie où je les sers très volontiers.
Combien d'habitants l'hiver?
220, 230.
Tout le monde se connaît?
Ah oui. Oui, c'est à la fois bien et moins bien parce qu'on vit sous le regard des autres.
Merci beaucoup André Vielvoye d'avoir été en ligne avec nous.
Je vous en prie, bonne journée.
Allez, on quitte l'île de Watt pour rejoindre le grand festival de ce week-end, c'est bien sûr les Vieilles Charrues. C'est l'événement de ce week-end, bien sûr, événement musical en partenariat avec Europe 1, les Vieilles Charrues à Carré dans le Finistère. Et Jean-Gabriel Bourgeois a bien sûr posé ses valises là-bas.
On est à Carré-Plouguer dans le Finistère, au plus grand festival de France.
Les Vieilles Charrues!
Eh oui, les Vieilles Charrues, ça a commencé hier et jusqu'à dimanche, la ville bretonne de 7000 habitants accueille 70 000 festivaliers chaque jour dans les champs en contrebas du bourg. Le site est tout simplement gigantesque, 15 hectares. Et pour loger tout ce monde, c'est pas toujours évident, il n'y a qu'un seul hôtel dans la ville. Alors c'est camping, bien sûr, et on va même dormir chez l'habitant. Des particuliers louent un bout de leur jardin, c'est le cas de David.
Ah, ici, cette année, on doit être une vingtaine, je pense. Donc tout le monde vient un peu s'installer ses petites tentes.
plantes là.
Sur les bouts de pelouse, ça se réveille tranquillement. Et on fait le débriefing des journées de la veille.
Tous les ans, c'est un peu les mêmes qui reviennent.
Bah tant que la maison est bonne, comme on dit par chez nous, les gens y reviennent.
Voilà, ceux qui reviennent cette année, c'est Claire et Thibaut.
On prend nos quartiers dans les jardins carésiens pour le week-end.
On loge dans la tente chez l'habitant, comment ça se passe
À la bonne franquette, il peut y avoir l'after dans le jardin, ça peut se prolonger jusqu'au petit matin.
Des petites surprises des fois, ou, par exemple des gens qu'on n'attendait pas dans notre tente. Je pensais aller me coucher tranquillement et en fait, c'est quelqu'un que je connaissais pas qui était dans mon lit.
Ah bah c'est l'ambiance festival, hein. Dormir avec des gens qu'on connaît pas, puis aussi manger. D'ailleurs, on mange un peu tout et n'importe quoi dans un festival.
Eh bien, je vais pas vous étonner, Pierre, en vous disant qu'on trouve des crêpes. Non. On est quand même en Bretagne ici. Hein. Oui. La galette saucisse, c'est l'une des reines. Mais plus surprenant, certains osent l'inattendu, comme Adrien.
Moi, je suis au stand tartiflette depuis donc 5 ans.
La tartiflette en Bretagne, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé d'endroit?
Alors, au début, j'ai pensé à un canular. Et en fait, quand je me rends compte du monde qui vient au stand les jours de gros rush, je me rends compte que non, en fait, ils ont bien trouvé l'idée.
Ah, il faut dire que la pomme de terre, ça tient au corps.
Tu m'étonnes.
Hein. Par contre, on est loin des petits plats préparés par des chefs étoilés pour les artistes qui vont se produire pendant les 4 jours du festival. J'ai demandé à Camélia Jordana ce qu'elle avait mangé.
Ah, moi, j'ai très bien mangé. Il y avait des écrevisses délicieuses avec des carottes râpées. Il y avait du hummus fait maison. Il y avait une espèce de hummus aussi avec de la figue. Très, très bon. Et puis après ça, il y avait des courgettes farcies aux protéines de soja, ma foi. Étonnant, très bon.
Ça change de ce qu'on trouve sur les autres festivals.
Oui, mais il y a plein de festivals dans lesquels on mange de mieux en mieux.
Ça donne envie de revenir au festival, du coup.
Oh oui, mais il n'y avait pas besoin de ça. Hein.
Elle prononce très bien hummus, hein, Camélia Jordana. Elle avait l'honneur d'ouvrir les vieilles charrues hier. C'est l'occasion d'écouter son artiste préféré et d'en découvrir d'autres. Hein.
Ah oui, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Hier, on a pu entendre Booba, Columbine ou encore le rappeur Vald qui fait un carton chez les jeunes. Il y avait aussi Jamel Debbouze, le groupe de belge de rock alternatif Balthazar. Et puis aussi Nile Rodgers, le groupe Chic et la Speed Zazi.
Ça c'est le début ça.
Oui, ça monte ouais, progressivement, ça monte. Cette chanson. Voilà, et au total, 73 groupes et artistes vont faire trembler les champs de Carré jusqu'à dimanche.
Les Chants de Carré, le festival qui bat son plein en ce moment et encore tout ce week-end en partenariat avec Europe 1. Jean-Gabriel Bourgeois, vous avez à ce titre rencontré notre Madame Musique Maison, Émilie Mazoyer, qui bien sûr s'est installée au studio Europe 1 des Vieilles Charrues. Mais plutôt que le camping, elle a choisi le confort.
Alors on est petits joueurs parce que normalement quand on vient aux Vieilles Charrues, on va au camping des Vieilles Charrues. Bon, nous on est à l'hôtel juste à côté du festival, j'avoue, on est super bien traités. Europe 1, c'est le partenaire, la radio officielle de ce gros festival. En fait, c'est le plus gros festival de France, les Vieilles Charrues. Il faut imaginer, il y a des dizaines de milliers de personnes tous les jours, il y a plein de concerts. Donc, il y a de quoi, évidemment, nourrir 2 émissions spéciales. Il y en a une ce soir de 20h à 23h et demain, même chose, 20h à 23h. Et donc, ce sera un mélange, comme on fait chaque année, d'extraits des concerts, puisque les artistes ont la gentillesse de nous offrir un titre, 2 titres, 3 titres, des coulisses aussi du festival, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe derrière. Et puis, des interviews, donc d'artistes aussi. Ça vous fait vivre le festival sans bouger du canapé. C'est pas mal, hein. Franchement, si j'étais vous, j'écouterais cette émission de qualité.
Qu'est-ce qu'il y a comme artistes qui seront là pendant l'émission que vous allez diffuser à Émilie?
Alors, j'aurai le bonheur de faire la bise, puisque évidemment, à chaque fois, je ne me prise pas, je fais la bise. Par exemple, à Skunk Anansie, qui est un groupe de rock anglais qu'on aime beaucoup depuis les années 90. Bon, bah, Iggy Pop. Croyez-moi que on va lui poser des questions et qu'on va lui faire des câlins.
Ah ouais, la classe Iggy Pop quoi.
Voilà. Dans les légendes, dans un autre style, mais il y a Jane Birkin qui va venir nous voir aussi. Alors elle fait un concert très spécial. C'est les chansons de Gainsbourg, évidemment, avec un orchestre symphonique. Ça va être très beau. Et voilà, elle a accepté et qu'on enregistre le concert et de venir nous parler. Donc il y aura de jolis moments avec Jane. Il y a aussi évidemment tous les nouveaux talents qu'on a remarqués, qu'on a écoutés cette année sur Europe 1, comme Clara Luciani, comme Jeanne Hadet, comme Christine and the Queens. Voilà, elles seront là aussi, ces filles formidables. Et puis on va en profiter, voilà, pour découvrir des gens dont on nous parle. On nous parle de Suzanne. Bon, on va aller voir ce que ça donne, Suzanne en live. Aya Nakamura aussi, qui a vendu des tonnes et des tonnes de singles depuis... Jaja. Bon, on va aller voir sur scène ce que ça donne à Aya Nakamura, si la hype autour d'elle se justifie sur une grande scène dans un grand festival. Donc ça va être un bon moment, je pense. Faut que vous vous imaginiez, en fait, les Vieilles Charrues, il y a deux grandes scènes principales qui sont face à face et qui sont séparées par une grande prairie avec une colline. Et donc, le soir, quand le jour baisse et quand vous êtes devant la première grande scène, et vous voyez vraiment une marée humaine donc qui monte comme une vague et puis qui redescend de l'autre côté, vers l'autre grande scène. C'est très beau, c'est très impressionnant pour les artistes qui disent qu'ils se sentent vraiment très proches du public. Et puis le Breton en festival chante, fait la fête, s'amuse, applaudit, boude pas son plaisir. Donc c'est souvent de très très grosses ambiances au Charrues.
C'est vraiment dans la peau la Bretagne là.
Alors oui, et d'ailleurs sur ce festival, vous savez les sodas de couleur brune foncée que tout le monde boit, hein, il n'y a que du cola breton ici. Même chose pour la bière, à consommer avec modération évidemment, mais c'est de la bière locale. Donc oui, c'est très revendiqué. Voilà, c'est un festival qui est bien ancré dans le Finistère. Toute la signalétique du festival est en français et en breton. Il y a même des cours de breton dans le festival, si vous avez envie. Et puis, il y a les fameux drapeaux bretons qui sont quand même dans tous les concerts du monde entier. Où que vous soyez, il y a toujours un type qui va sortir un drapeau breton. Ici, il y a une marée de drapeaux bretons, c'est magnifique.
Voilà, festival identitaire mais à la fois international. Jean-Gabriel Bourgeois, merci de nous avoir fait partager ces moments en Bretagne. Vous avez aimé ?
Avec
vous
plaisir.
Connaissiez ?
Ah oui. Eh ben, je connaissais un petit peu. Oui, j'ai quelques origines d'ailleurs du côté de la Loire-Atlantique, mais j'avais pas vraiment fait le tour. Je connaissais un petit peu certains endroits, la Pointe du Raz, l'île de Saint, Saint-Brieuc aussi. Mais c'est vrai que c'est tellement énorme la Bretagne qu'on a envie d'y passer tout le temps, quoi.
Merci beaucoup. Jean-Gabriel Bourgeois de nous avoir accompagné pendant ces deux semaines dans Vous êtes où cet été. La semaine prochaine, ça sera le tour de Jian Bergawi de nous accompagner. Merci à tous de nous suivre de 13h à 14h tous les samedis sur Europe 1.